Bienvenue à cette émission de conférences pectorales. Aujourd'hui, le pasteur Jean-Marc Brochu enseignera sur la troisième pierre du pectoral, l'émeraude, qu'il a intitulée « La pierre du Lévite ».
Encore dans Exode, chapitre 28, verset 17, nous lisons « Lorsque Dieu parlait à Moïse de préparer ce pectoral, tu y enchasseras une garniture de pierres, quatre rangées de pierres. Première rangée, et l'hébreu c'est de droite à gauche, on n'oublie pas, une sardoine, une topaze et une émeraude. » C'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. En hébreu, Bareket, qui peut avoir un rapport possible avec l'ancien Akkadien de Babylonie ancienne, Baraktu. En grec, c'est Smaragdos. Sur l'échelle de dureté du professeur Mou, elle chiffre 7,5 entre 1 et 10. Donc, elle est vue aussi comme une variété de pegmatite ou de béryl de couleur verte vive. C'est également la pierre d'ornementation du quatrième fondement de la Nouvelle Jérusalem qu'on trouve dans Apocalypse au chapitre 21, verset 19. Alors, de l'hébreu, Bareket, ça signifie « brillant comme l'éclair ». C'est une très belle pierre, n'est-ce pas, les émeraudes vertes. Et il y avait sur cette pierre le nom gravé de Lévi, qui signifie « attachement ». Il y a des émeraudes que l'on trouve, peut-être certains d'entre vous ne le savez pas, mais que l'on trouve ici et là dans la nature, qui ont une forme géométrique hexagonale parfaite. Et cela même avant qu'aucun joaillier n'ait mis la main dessus pour la travailler. Alors ce sont des merveilles de la création de Dieu. Puisque cette troisième pierre du pectoral portait le nom de Lévi, j'aimerais que nous regardions de plus près tout ce qui concerne les Lévites et les sacrificateurs. Ils seront certainement étonnés en constatant tous les liens et associations qu'il peut y avoir entre eux et la vie chrétienne, entre l'Ancien et le Nouveau Testament dans la Bible. Parmi les 12 tribus d'Israël, les Lévites étaient la tribu qui portait le symbole du pectoral sur sa bannière. Vous savez que chaque tribu était représentée par une bannière lors des campements et des déplacements dans le désert. Et sur la bannière de cette tribu, des Lévites, bien on pense, on dit qu'il y avait le pectoral avec l'Urim et le Thummim. Chacune donc des 12 tribus était répartie autour du tabernacle, campée à proximité, chacune avec leur bannière unique selon la maison de leur père. Nous lisons cela dans le livre des Nombres, au premier chapitre, versets 51, 53 à 53. Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière selon leur division. Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate pas sur l'assemblée des enfants d'Israël. Et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Donc, eux, ils encerclaient, ils entouraient, chacun avec ses fonctions, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, par rapport au tabernacle. Alors, d'après le Talmud, la bannière était possiblement de la couleur de la pierre. Comme chaque pierre, les 12 pierres, chaque tribu, bien, la couleur de la pierre, la bannière allait avec cette couleur-là, semble-t-il. C'est une théorie qui identifiait donc chacune des tribus avec ces couleurs-là. Mais c'est une tradition qui rencontre, c'est-à-dire tous ne sont pas du même avis sur ce point-là, sur ce sujet-là, dans le monde juif et dans les commentaires et tout cela. Alors, Dieu a donné sa loi à Israël et sous condition de garder son alliance, il a affirmé au peuple qu'il serait un royaume, on avait vu cela dans nos études précédentes, dans Exode 19, verset 5-6, un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Aaron, le frère de Moïse et ses fils, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar, comme on voit dans 1 Chronique 24, premier verset, ont été choisis pour le sacerdoce, comme sacrificateur. On le voit aussi dans Exode 28, premier verset, et le chapitre 40 du même livre, verset 12 à 15. On n'a pas la signification certaine du nom d'Aaron, mais il peut contenir l'idée d'une montagne. Une autre possibilité serait très haut. Nous croyons cependant qu'il est une figure prophétique vraiment du grand souverain sacrificateur Jésus-Christ. On a eu l'occasion de voir quelques références déjà. Et celle-ci aussi est intéressante, encore dans l'Épître aux Hébreux. Plusieurs références en rapport avec cela se trouvent dans cette Épître-là aux Hébreux. Hein. Alors c'est dans le chapitre 4, le verset 14. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Et si on va au premier chapitre du même livre aussi, ça aussi, c'est merveilleux comment il est dépeint, décrit ici, versets 2 et 3 du premier chapitre. « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde, qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Alors, tous les différents sacrifices du Lévitique annonçaient les différents aspects du sacrifice ultime de Jésus-Christ pour le monde. Lui qui a rempli à la fois les rôles de souverain sacrificateur et de sacrifice en même temps. Les détails de la confection du tabernacle et des vêtements sacerdotaux témoignent encore au sujet du Seigneur. Les artisans les plus qualifiés et les plus doués travaillaient ces matériaux, tout ce que Dieu avait dit de préparer, autant des vêtements que le mobilier du tabernacle, etc., les broderies. Et cela cherche peut-être à nous faire comprendre que les grâces les plus rares et les plus belles s'unissent merveilleusement dans la personne de Jésus-Christ. C'est ce que disait Garrett Crossley dans son livre « Survol de l'Ancien Testament ». Alors, il y a eu Nadab et Abihu, les fils d'Aaron, qui sont malheureusement morts jeunes au début de cette institution sacerdotale. Pourquoi? Parce qu'ils avaient offert du feu étranger. Nous trouvons cela dans Lévitique, chapitre 10, versets 1 et 2. Les sacrificateurs, leur nom le dit bien, devaient sacrifier sur l'autel du tabernacle, en présentant avec le sang les offrandes animales et végétales, ainsi que les holocaustes, des sacrifices entièrement consumés, des taureaux sans la peau et les oiseaux sans le jabot. Dans la nation juive du sacrifice, la notion juive du sacrifice, dis-je, il existe dans la racine de ce mot le sens de rapprocher de, ou établir une relation proche avec. Il y avait donc une implication plus profonde que de seulement apaiser, par exemple, la divinité par un don. Les pécheurs qui venaient faire sacrifier leurs animaux pour le péché le faisaient avec une espérance ou par anticipation, peut-être sans le savoir certainement, de ce que le Messie Jésus-Christ allait plus tard pleinement réaliser dans le temps par sa mort à la croix. En plus du service sacrificiel du sanctuaire, les sacrificateurs enseignaient la loi. Oui, ils étaient consultants de Dieu avec l'Urim et le Thummim. Ça, c'est à deux pierres que Dieu avait dit d'ajouter au pectoral, dans une pochette jointe au pectoral. Et l'Urim et le Thummim, on lit de droite à gauche lorsqu'on les voit, si par exemple ils étaient attachés au pectoral et qu'on pouvait les voir ou présenter. La façon dont on l'a dit, Urim et Thummim. L'Urim était une pierre d'ambre, possiblement, et le Thummim, une pierre d'hématite. Et on pense que l'Urim était donc de couleur blanche, pâle, et le Thummim, une hématite noire. Et que le blanc, dans le tirage au sort, servait à dire oui, et que le noir, l'hématite, le Thummim, servait à dire non, tout simplement. Il y a peut-être d'autres théories qui existent, mais celle-là semble plausible et intéressante pour nous. Nous trouvons, par rapport à cela, par exemple, dans le dernier livre de l'Ancien Testament, le prophète Malachie, deuxième chapitre, verset 7, il est dit ceci, « Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. » dans Exode 28, je reviens dans le livre d'Exode, on commence toujours l'étude avec ce livre-là, souvent le chapitre 28, c'est bon pour vous de le retenir parce que c'est là que se trouvent les premières mentions du pectoral. Et au verset 30 de ce chapitre 28, Dieu disait, « Tu joindras au pectoral du jugement l'urim et le thummim. » Ils ont ces deux pierres-là rapport avec ce jugement, ce discernement, cette révélation dans le tirage au sort, par exemple. L'urim et le thummim, ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Et un dernier verset par rapport à cela dans le livre d'Esdras, chapitre 2, verset 63. Esdras 2, 63. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'urim et le thummim. C'est une situation particulière. Il devait consulter l'urim et le thummim pour savoir la volonté de Dieu dans une certaine situation. C'est à cela que servaient ces deux fameuses pierres. C'était normalement le souverain sacrificateur qui utilisait ces pierres qu'il portait avec le pectoral. La tribu de Lévi avec ses fils Gershom, Kehat et Merari, par exemple qu'on voit dans Genèse 46, 11, fut choisie à la place de tous les premiers-nés d'Israël. Dieu les consacra pour lui en remplacement des premiers-nés d'Égypte qui furent tués, vous vous rappelez, lors des plaies d'Égypte, des terribles plaies d'Égypte. La dernière et la plus terrible, la dixième, mais ce fut la mort des premiers-nés. C'était à cette occasion qu'il y avait eu la Pâque. J'en ai parlé récemment dans une autre émission, l'agneau pascal et tout ça. Mais on voit donc dans Nombre, chapitre 8, versets 14 à 17, des explications par rapport à ce choix de remplacement des premiers-nés d'Égypte. Avec les Lévites. Ils étaient choisis pour le service du tabernacle, soit pour la garde, les soins, le transport et diverses autres assistances auprès des sacrificateurs. Parfois, sacrificateurs et Lévites sont confondus dans l'Écriture, mais au début, il y avait vraiment une distinction entre les deux. Les sacrificateurs étaient souvent appelés Lévites parce que c'était leur tribu d'origine. Et donc, si vous regardez dans Deutéronome 17, verset 9, verset 18, chapitre 18, verset 1, etc., vous allez voir des citations qui semblent confondre, et à force de répéter des passages comme ça, bien, ça mélangeait leurs différences, peut-on dire comme ça. Alors, pas loin de 5 siècles après les débuts de ce sacerdoce lévitique, nous arrivons à l'époque du roi David, qui lui répartit les Lévites en 4 classes et les subdivise en 24 classes. On trouve ça dans 1 Chronique 23. Je ne dirai pas tous les versets parce que ça serait trop long, mais à vous de prendre des notes et regarder 1 Chronique 23, versets 1 à 5 et aussi le verset 24 ou le chapitre 24. Ceux qui assistaient les sacrificateurs dans le service du sanctuaire, ceux désignés comme juges et magistrats, donc David avait divisé dans ces catégories, des portiers, des chantres et des musiciens. Les croyants d'aujourd'hui, de toute nation maintenant, parce que ça c'était ce que je vous rapporte au sujet de l'histoire de l'Ancien Testament.
Bien chers auditeurs, c'est déjà la fin de l'émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. À cette occasion, le pasteur Jean-Marc Brochu enseignera sur la suite sur l'émeraude du pectoral. Pour info, vous pouvez consulter notre site Internet à cette adresse www.conférencepectorale.org. Vous pouvez également voir notre local d'exposition de nos maquettes de l'histoire d'Israël à l'adresse arcexposition.wordpress.com. Et vous pouvez joindre Jean-Marc à l'adresse courriel pectoralia@gmail.com.